Bonjour, voilà, bienvenue chez Filigrane et bienvenue pour cette présentation du livre « Oui, une autre Belgique est possible » qui est donc le livre qui a été écrit par Gilles Van den Buur. Donc mesdames et messieurs, si vous êtes un peu plus loin, on vous invite à nous rejoindre pour un petit peu discuter de ce livre. On va peut-être commencer par vous présenter Gilles Van den Buur. Donc vous êtes le président de B+. Si en deux mots vous pouviez nous expliquer ce que c'est exactement que la SBL B+, puisque c'est dans ce cadre-là que vous avez écrit ce livre.
En fait, la SBL B+, en deux mots, est un mouvement citoyen, donc composé de toutes les strates possibles de la société, qui depuis 10 ans lutte contre le séparatisme en Belgique et se bat, parce que vraiment chaque jour on a l'impression qu'on se bat de plus en plus contre le séparatisme et pour la tolérance, pour que les communautés, que les flamands, les francophones, les germanophones dans ce pays se rencontrent, se connaissent, et pour que notre pays se modernise aussi, et que notre système fédéral, parce que nous sommes profondément pour un système fédéral, rentre de plein pied dans le 21e siècle. Donc en deux mots, c'est vraiment notre but. Et si je peux rajouter une phrase, on a deux moyens de, disons, diffuser nos idées. D'un côté, on publie des textes, on développe des arguments, on publie des livres aussi, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on fait aussi des activités ludiques, où là on parle pas du tout politique, on parle pas du tout communautaire, on rassemble les gens autour d'une bière, autour d'un spectacle, autour d'une course cycliste, parce que c'est toutes des choses qu'on organise, flamands, francophones, bruxellois, wallons, et pour pas juste passer un bon moment ensemble.
Donc vous l'avez compris, on parle de communautaires, on parle des flamands, des wallons, des francophones, des bruxellois. Et peut-être une des grandes idées du système B+, de l'ASBL B+, peut-être si vous pouvez en toucher un mot maintenant, on développera plus tard, mais c'est cette idée de modernisation du système fédéral. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par là aussi par rapport aux autres idées qu'on entend autour de ce système fédéral que certains voudraient voir disparaître ou maintenir tel quel?
Bien, en fait, c'est ça effectivement le cœur de notre argumentation, c'est de dire que d'un côté, on a les gens qui veulent la fin du pays, les séparatistes, les nationalistes, les rattachistes, enfin, tous les mots en iste, on a l'impression qu'ils sont tous mis d'accord pour vouloir la fin de la Belgique. Et d'un autre côté, on a, en tout cas, on nous le présente comme ça souvent dans la presse, les gens qui, en tout cas, donne la perception d'être pour le statu quo. Donc, on touche à rien, on reste comme c'est aujourd'hui. Et nous sommes convaincus, je suis convaincu, qu'il faut vraiment trouver une troisième voie, c'est-à-dire une voie qui ne soit pas séparer le pays, donc maintenir la solidarité, mais d'un autre côté, réformer l'État profondément. Parce que je pense que le pays en a besoin. Le pays est un État fédéral depuis les années 90, et aujourd'hui, on ne vit pas vraiment dans un État fédéral. Certaines compétences sont mises au niveau fédéral, mais certains rouages ne fonctionnent pas. On voit qu'on met 2 ans sans trouver un gouvernement, et clairement il faut moderniser notre État fédéral. C'est pas normal que par exemple Yves Le Terme soit Premier ministre avec 800 000 voix en Flandre et 0 du côté francophone, par exemple.
Alors on reviendra, les micros fonctionnent moins fort, mais ils fonctionnent toujours. Voilà. On reviendra peut-être sur cette idée de la modernisation du système fédéral. Peut-être une première chose qui symbolise l'opposition entre wallons, flamands, chez nous. C'est une notion qui revient très souvent dans votre livre, c'est la notion du stéréotype. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en tout cas dans votre description de la société belge dans laquelle on vit, société politique, médiatique, citoyenne.
Effectivement, donc dans la première partie du livre, ce que j'essaie de montrer, en fait la première partie du livre s'appelle tout simplement « Comment en est-on arrivé là ?». Donc comment en est-on arrivé à cette situation où ça fait presque 3 ans qu'on a l'impression qu'on se tape dessus, qu'on a été pendant de très nombreux mois sans gouvernement? Et j'étudie effectivement chaque strate de la société. Et effectivement, il y a plusieurs strates de la société en Belgique qui sont tout à fait communautarisées. Les médias, le monde politique, c'est vraiment, ça se passe du côté francophone ou du côté flamand. D'autres strates sont tout à fait encore avec où les gens se mélangent, les gens se rencontrent, les gens se côtoient. Mais, et c'est là où le stéréotype rentre en jeu, c'est que là, souvent, l'autre communauté est caricaturée dans les mondes qui la connaissent pas ou la connaissent moins bien. Donc si je fais tout un moment une analyse du monde médiatique, où souvent, on va pas dire tout le temps parce que ce n'est pas vrai non plus, les journalistes font quand même bien leur travail, c'est pas à vous que je dois dire ça, mais souvent on qualifie les les habitants de l'autre communauté par des clichés. Le Wallon est paresseux, le Wallon fourrière, soit de l'argent, flamand, pour pouvoir vivre. Le flamand, c'est un facho qui déteste les étrangers et qui est un ancien collabo. Enfin, c'est tout des clichés comme ça qui restent très forts. Et j'exagère exprès, mais d'un autre côté, il y a vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, on ne décrit plus l'autre qu'en des termes négatifs ou qu'en tout cas, ce qui fait la une, c'est ce qui nous différencie. Alors que, demander à n'importe quel néerlandophone ou à n'importe quel francophone, on se sent plus proche de nos voisins directs qu'un flamand d'un hollandais ou un francophone, un belge francophone, un français. Donc finalement, on a beaucoup plus de choses qui nous lient que de choses qui nous différencient. Mais dans les médias, on a l'impression que tout nous différencie et qu'on est tout à fait différent.
Comment on peut expliquer ça? Parce qu'effectivement, vous le dites, à votre estime, Wallon et Flamand sont très proches l'un de l'autre, sont vraiment similaires. Et pourtant, vous le dites, dans les médias, dans le monde politique, on nous décrit comme très différents les uns des autres. Comment ça se fait qu'il y a ce stéréotype, qu'il y a cette place telle dans la société en Belgique?
Moi, je pense qu'il y a deux choses, en tout cas, si on prend les médias. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, et que j'ai envoyé le premier manuscrit à mon éditeur, il m'a dit que j'étais un peu trop vif par rapport aux médias, en fait. Donc, Luc Pire, qui édite le bouquin, il m'a dit, tu es un peu trop vif, là, ça va pas, c'est un peu trop à la tronçonneuse, si je puis dire. Et ils m'ont dit, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'avis neutre, un peu plus d'avis objectif dans ce que tu dis. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé l'avis de deux profs du NIF, qui sont spécialistes des médias. Un francophone, un flamand, évidemment, puisqu'on reste dans le thème du livre. Et donc, il y a Marc Litz, qui est prof à l'UCL sur les médias, et Dave Sinardet, qui est professeur sur les médias aussi à l'Université d'Anvers, qui donnent leur avis. Et qu'est-ce qui est intéressant, et on voit que leur avis converge, c'est de dire que souvent, au niveau médiatique, il y a deux choses. De un, eh bien, effectivement, ça fait sans doute plus vendre de voir un bar de Wever qui crie sa haine des francophones et qui dans la foulée, dans l'heure d'après, il y a Olivier Minguin qui lui répond toute sa vigueur francophone à la tête. Et donc ça, effectivement, c'est mieux de voir deux personnes qui se crient dessus en couverture que plutôt qui se serrent la main ou qui se font une étreinte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que finalement, les communautés, les mondes médiatiques sont évidemment différents. Donc les gens lisent dans leur langue, ce qui est normal. Donc je crois qu'il y a 5% de personnes en Belgique qui lisent les journaux de l'autre communauté.
Ce qui était moins le cas avant, parce que Marc Litz le dit, avant le Soir avait des pages néerlandophones et les journaux flamands avaient des pages francophones.
Oui, mais ça je pense que c'est l'évolution du pays qui fait qu'effectivement, avant il y avait toute une bourgeoisie francophone flamande qui lisait la presse en français, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais ça je pense que c'est plutôt une évolution historique. Mais ce que je voulais dire sur le deuxième point, c'est que souvent, les journaux aujourd'hui vont défendre leur communauté. Et donc, au lieu d'avoir un point de vue médiatique, c'est-à-dire on relate l'information qui s'est passée dans la journée, on l'analyse, hein, qu'elle soit politique ou autre, non, aujourd'hui, on a presque un propos militant. Et donc, c'est souvent, on retrouve ça souvent dans les éditorialistes, hein, qui sont les plumes les plus violentes, enfin, ou vives plutôt, que ce soit du côté d'ailleurs francophone ou flamand. Et au-delà d'analyser la situation politique, ils sont vraiment militants. On a vu par exemple du côté francophone Isabelle Delvaux du Soir qui a dit il y a quelques mois non, plus de Yves Le Terme par exemple quand Van Rompuy est parti au niveau européen. C'est quelque chose qui, en tout cas selon les analyses de certains, est quand même un peu bizarre pour un journal de prendre position pour ou contre un Premier ministre. Et donc il y a ce rôle militant des médias qui fait qu'il va défendre sa communauté. Pourquoi? Parce que ce sont ses lecteurs. Donc évidemment, c'est là où, et donc ça c'est dans la suite du livre, mais j'imagine qu'on y viendra, il manque un espace fédéral en Belgique. Et donc clairement, au niveau médiatique, on voit que ça manque.
Au niveau médiatique, au niveau politique également, là aussi vous faites le même parallèle entre les hommes politiques qui défendent leur communauté avant de défendre leur pays.
C'est-à-dire que, c'est un peu le problème de l'œuf ou la poule. Est-ce que aujourd'hui les politiques ne défendent plus que leur communauté parce qu'on a scindé les circonscriptions électorales en Belgique, ou est-ce que c'est l'inverse? Bon, ça, je crois qu'on peut en débattre des heures. En tout cas, ce qui est un fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'élections fédérales, donc pour tout le pays, pour élire nos ministres fédéraux, eh bien, il y a des élections en Belgique francophone, en communauté française, il y a des élections en Flandre. Et à la fin des élections, le lendemain, il faut que tout le monde se mette autour de la table, presque dans une conférence diplomatique, hein, je crois que c'était Karel de Gucht qui avait dit ça, pour se mettre d'accord sur finalement comment on va faire le gouvernement. Et donc, c'est de un, c'est unique au monde. Il n'y a aucun autre pays qui fonctionne comme ça. Il n'y a aucun autre pays qui a deux PS, deux partis libéraux, deux partis socio-chrétiens, deux partis verts. Ça n'existe nulle part ailleurs, hein, même dans les autres pays fédéraux. Et donc, chez nous, on a cette particularité qu'effectivement, il faut faire campagne dans sa communauté et qu'après, il faut aller former un gouvernement fédéral. Donc, ce qui est en fait, même au niveau démocratique, c'est un petit peu une incohérence totale. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je disais en introduction, on a un Premier ministre qui a été élu en Flandre, par un score d'ailleurs triomphal de 800 000 voix, qu'on nous répète assez, mais qui finalement n'a eu aucune voix wallonne, non pas parce que les Wallons ne l'aiment pas, enfin peut-être aussi, mais en tout cas c'est pas ça qui fait qu'il n'a pas eu de voix, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voter pour lui. Et donc là, il manque un réel espace fédéral.
Il manque un espace fédéral, il manque un espace régional, en tout cas deux espaces qui sont très séparés les uns des autres. Vous plaidez en tout cas pour une séparation claire et nette des rôles politiques fédéraux d'un côté, régionaux de l'autre, et des hommes politiques fédéraux et régionaux, comme ça se passe ailleurs.
En fait, quand vous me posiez la question de comment moderniser notre État fédéral, ben clairement là, c'est vraiment un point clé. Et je pense que quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, quand on regarde ce qui se passe en Suisse, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, en d'autres États fédéraux proches de nous, européens, c'est une clé de différenciation des niveaux régionaux et fédéraux. Aujourd'hui, on vote bon an, mal an en Belgique tous les deux ans. Et on a l'impression qu'on peut toujours voter pour les mêmes. Alors les listes sont toujours les mêmes, noms en tête de liste sont toujours les mêmes. Et donc, finalement, il n'y a aucune différence entre les niveaux. Moi, je cite des exemples dans le livre. En juin dernier, on avait des ministres fédéraux tête de liste au régional à Bruxelles. On a des ministres régionaux qui quittaient le Parlement pour se mettre sur la liste. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, dans le sens, il n'y a aucune cohérence. Et donc, il y a tous des passages d'un niveau à l'autre sans aucun problème, alors que, si vous prenez l'Allemagne par exemple, quelqu'un qui est responsable au niveau de sa région, donc du Länder, il est un responsable régional reconnu. Et les gens savent très bien que c'est un responsable régional, et d'ailleurs, les élections... On se pose toujours la question de savoir en Belgique, tiens, est-ce qu'on va faire des élections fédérales et régionales regroupées, ou est-ce qu'on les sépare comme aujourd'hui ? C'est le grand débat de savoir, tiens, est-ce que ça va mobiliser plus les électeurs à justement différencier les niveaux si les élections ne se passent pas en même temps comme aujourd'hui. Moi, je crois que c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est d'avoir des niveaux clés de pouvoir. Et si on prend l'Allemagne, par exemple, ils votent à des moments totalement différents pour les élections régionales. C'est-à-dire que à Munich, ils vont voter telle année et un an après, ils vont voter dans un autre Länder. C'est comme chez nous, c'est comme si chez nous, on avait les élections flamandes cette année, les élections bruxelloises l'année prochaine et wallonne dans deux ans. Je n'appelle pas à ça, mais je trouve que la clarification politique ne doit pas venir du système. Donc c'est pas le politique qui doit dire imposer, ah, il faut réunir les élections ou il faut les séparer. Non, ça doit venir de la clarté même. Ça doit être une évidence pour les gens de se rendre compte. Et je termine juste avec un dernier exemple. Je vois que vous avez une question à poser, mais je termine juste un dernier commentaire. C'est, je prends l'exemple dans le livre, on avait fait un sondage en Wallonie, c'était, je crois, de mémoire, en mai, juste avant les élections régionales. On avait demandé aux gens, quelle est votre coalition au pouvoir au Parlement wallon ? Donc, quelle est la coalition gouvernementale ? Et ça m'avait vraiment frappé pour la raison suivante, c'est que le nombre de résultats corrects était de 14%. Donc vous aviez 14% des Wallonnes et des Wallons qui savaient qui les gouvernait. Donc en gros, c'était une majorité PS-CDH et la plupart des gens avaient mis le MR dedans parce qu'effectivement, le MR est au pouvoir au fédéral. Et donc je trouve que ce genre de chiffres devrait être un cri d'alarme pour se dire, mais voilà, les gens ne suivent plus du tout ce qui se passe. Et donc c'est pour ça, je crois vraiment qu'il faut, il faut clarifier les choses.
Alors, vous déplorez que des hommes politiques passent d'un niveau de pouvoir à un autre en pleine législature. Vous déplorez que ce soit les mêmes têtes de liste qu'on retrouve sur les listes régionales, fédérales, communales. Donc, vous voulez pousser nos élus à choisir, c'est ce que vous avez, avec par exemple l'interdiction de passer d'un gouvernement à l'autre en pleine législature, de se présenter sur deux listes à la fois, européenne et régionale. Mais est-ce que c'est pas un petit peu utopiste de demander à nos hommes politiques aujourd'hui de vraiment choisir entre être un homme politique communal, régional ou fédéral, mais pas les trois à la fois ?
Sur le communal, je pense que c'est plus nuancé. Je pense que l'ancrage local est bon. Mais entre régional et fédéral, clairement, il faut choisir. Je pense que c'est comme ça dans tous les pays fédéraux au monde. De nouveau, on a créé un État fédéral dans les années 90. À juste titre, parce que je suis un fédéraliste convaincu et j'estime que c'est le meilleur système pour que les différentes communautés cohabitent en Belgique. Ceci dit, on dit aujourd'hui qu'il marche pas. Hein. Tout le monde nous explique, les nationalistes flamands en tête, mais également du côté francophone, ça marche plus, c'est une conférence diplomatique permanente, on ne sait plus qui fait quoi, on a 40 ministres autour de la table, imaginez le service de catering et de logistique pour accueillir une réunion gouvernementale en Belgique, enfin bon, c'est un peu le bordel, si je peux dire ça comme ça. Et d'un autre côté, des mesures simples, comme dire, voilà, vous êtes élu au fédéral, ben vous restez 4 ans, et vous passez pas au niveau supérieur ou au niveau régional. C'est simple, et c'est comme ça dans les autres pays fédéraux. Donc je crois que d'un côté, il faut regarder ce qui se passe un peu ailleurs, et il faut arrêter de taper sur le système chez nous, dire qu'il marche pas. Moi j'ai toujours l'impression, on dirait le fédéralisme en Belgique, ça marche pas, c'est pas le système qu'il nous faut, mais moi j'ai pas l'impression que les acteurs qui devraient le faire marcher, le font marcher. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans une voiture, qu'ils appuient sur l'accélérateur et que ça freine, ils se demandent pourquoi. Et moi j'ai l'impression que c'est constamment comme ça.
Comment ça se fait que c'est comme ça chez nous, c'est pas comme ça ailleurs? Comment ça se fait que nos hommes politiques, on les imagine mal, demain, un Didier Reynders, une Joëlle Milquet, dire « je ne fais plus que du fédéral » ou « je ne fais plus que du communautaire, du régional »
Mais en tout cas, pendant la législature, je n'ai pas toute leur carrière politique, mais pourquoi pas effectivement imaginer d'être ministre régional pendant 5 ans et puis passer au fédéral après, ça, il n'y aurait pas de problème dans le respect de la législature et de respect du vote de l'électeur. Mais je crois qu'aujourd'hui, et ça c'est sans doute un point que je couvre moins dans mon livre, mais pour répondre à votre question, on devrait un peu dévier, je pense, sur la particratie et le fait qu'en Belgique, ce sont les partis qui sont très importants, d'ailleurs aussi bien en Flandre qu'en Belgique francophone, et qui font que les gens que nous on connaît, citoyens, ben c'est un peu toujours les mêmes, parce que tous les dimanches à la TV on voit les mêmes qui débattent, on voit toujours les chefs de parti, on voit toujours les mêmes porte-paroles, et donc finalement c'est toujours les mêmes personnes pour qui on a envie de voter, parce que c'est les mêmes, celles qu'on connaît et qui se présentent toujours à nous.
Alors ça m'amène à cette deuxième notion. Je disais au début qu'il y a deux grandes notions dans votre livre, c'est cette notion du stéréotype et cette deuxième notion, c'est la place du citoyen. Vous en parlez de la particratie, la place du citoyen. Est-ce que le citoyen finalement peut avoir une influence là-dessus, ou comment est-ce que le citoyen accepte cette situation?
En fait, donc moi, le point central de mon livre, c'est de dire que justement, il faut rendre le débat communautaire aux citoyens. Donc à vous, à moi, enfin à tous ceux qui sont citoyens de ce pays. Pourquoi? Pour des raisons en fait assez simples. La première, c'est que les responsables politiques l'ont complexifié à outrance. On le voit depuis la crise des dernières élections fédérales. Qui suit encore vraiment? Moi, j'ai vraiment l'impression, de par justement la SBLB+, et les activités qu'on fait, donc je rencontre quand même pas mal de gens, aussi bien en Belgique francophone qu'en Flandre, les gens sont perdus. Qui en Belgique sait ce que c'est BHV? Ou qui comprend vraiment les implications? Interrogeons, ça c'est un sondage que j'ai jamais vu dans la presse. Là, je m'adresse à vous, journalistes, voilà, faites un sondage là-dessus. Demandez aux gens, le jour plus un, où enfin BHV sera scindé, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Demandons ça aux 4,5 millions de francophones en Belgique. Je me demande vraiment bien les réponses. J'en ai pas la moindre idée. Mais je serais vraiment curieux qu'on le fasse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est complexifié à outrance. Et ce que je crois intimement, et c'est ma conviction intime, c'est que la grande majorité des Flamands, des Bruxellois et des Wallons veulent continuer à vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur de mon livre. Et mon autre fil conducteur, c'est de dire que oui, ils peuvent au quotidien faire vivre ce vivre ensemble, faire que ce vivre ensemble marche, et que s'ils souhaitent que la Belgique continue à être ce carrefour des cultures latines et germaniques, eh bien, ils peuvent participer à cette modernisation de notre pays, pas en faisant des manifestations de 20 000 personnes, pas spécialement en créant des mouvements politiques, mais simplement en organisant un match de football de l'autre côté de la frontière linguistique, en projetant un film flamand dans leur centre culturel. Il y a vraiment des tas de choses à faire, en organisant un drink avec des collègues flamands pour garder le prochain match de Justine Hénin contre Kim Clijsters. Enfin, je veux dire, il y a vraiment plein de choses à faire, des plus naïves, des plus modestes, mais c'est ça qui fait vivre la société au quotidien. Ce que je prends toujours comme exemple, c'est de dire que nos responsables politiques pourraient s'enfermer pendant des mois dans Val-Duchesse. Franchement, je leur souhaite pas. Imaginons quand même qu'on ouvre un peu les fenêtres et que la nourriture soit correcte. Mais ils pourraient s'enfermer un mois, deux mois, je suis sûr qu'ils trouveraient une solution. Ils trouveront une solution, un compromis ficelé, un équilibre fragile, comme toujours. Mais si les gens n'ont plus envie, on pourra les laisser 2 ans, 3 ans dans Val-Duchesse, ils pourront sortir avec n'importe quel compromis, donc ça ne marchera plus. Donc moi, ce que j'essaie vraiment de promouvoir, c'est de dire, voilà, si vous, moi, ici, de tout le monde, que peu importe où on habite, on croit encore à un avenir pour ce pays, eh bien, oui, il y a moyen de faire quelque chose, oui, il y a moyen de le montrer, et finalement, avec un élan suffisant, le monde politique devra s'en rendre compte.
Mais est-ce que les citoyens ont encore envie? Est-ce que les citoyens se sentent concernés? BHV, par exemple, évidemment, les Bruxellois, les gens de la périphérie se sentent concernés, mais est-ce que les citoyens du sud de la Wallonie ou du nord de la Flandre sont encore intéressés par ça? Par exemple, on voit qu'à part B+, il n'y a quasi aucun groupe de pression pro-Belgique en Belgique. Il y a des groupes de pression anti-Belgique, mais des pro-Belgique, il n'y en a quasi pas, à part B+. Est-ce que les gens ont envie, le citoyen a envie?
Moi, enfin, donc mon intime conviction, c'est que la grande majorité des citoyens, oui, ont envie. Donc ça je vous réponds, c'est plus une conviction parce que tous les sondages, tous les grands sondages d'opinion le démontrent sur les 10 dernières années, qu'effectivement, il y a toujours une grande majorité de citoyens qui sont pour le maintien de l'unité du pays. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mouvements qui quelque part luttent pour la Belgique? Mais enfin, la Belgique existe, donc c'est toujours difficile de faire un mouvement pour quelque chose qui est déjà là. Enfin, c'est un jour un professeur d'université qui m'avait expliqué ça. C'est plus facile de faire un mouvement contre. Et bon, moi je rentre pas dans ces considérations-là. Ce que je pense, c'est que de nouveau, au quotidien, il y a énormément de choses qui se passent et qu'on ne relève pas ou que les. Je lisais encore c'était hier. Bon, dans la dernière heure, pour ne pas le citer. On relatait le fait que des francophones dans une voiture, dans une commune de la périphérie, mais je ne sais plus laquelle, sont fait arrêter par des flics flamands, et apparemment ont été plus maltraités, et donc on fait un accident contre une autre voiture avec des flamands dedans, et donc les flics étant flamands, on fait un constat crapuleux pour les mettre en tort. Voilà. Et l'article s'arrête comme ça. Bon, là on se dit, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un simple fait de vie quotidienne qui est rapporté quand même presque en première page de la dernière heure, juste à côté des sports, parce que généralement, la dernière heure, je regarde pour les sports, donc ça ne devait pas être loin. Mais on se dit, tiens, on relate ce fait, mais vraiment de la pure vie quotidienne, alors qu'on pourrait en citer 20 000 d'exemples absolument contraires. Tous les gens qui travaillent ici au centre de Bruxelles, que ce soit dans les administrations fédérales, que ce soit dans les grandes banques, que ce soit dans les entreprises, c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes qui, au quotidien, travaillent ensemble. J'ai pas l'impression qu'il y ait des martyrs ou des guerres ou des stylos lancés à la figure entre flamands et francophones ici dans les bâtiments. C'est la même chose pour le sport. Tous les week-ends, sur les terrains de foot, sur les terrains de tennis, sur les terrains de hockey de tout le royaume, il y a des équipes qui s'affrontent. Alors parfois ils se tapent dessus sans doute, mais je suis pas sûr que c'est parce qu'ils sont francophones et flamands. Donc, il y a plein d'exemples de la vie quotidienne qui fait que, oui, je crois que les gens aiment cette multiculturalité et aiment le fait de se dire, voilà, on est au cœur de l'Europe. On a un voisin qui parle une autre langue que nous, on est quand même assez similaires en dehors de la langue, et je pense sincèrement que les gens aiment ça. Mais il faut maintenant, et ça c'est une obligation, que les responsables politiques optimalisent le fonctionnement de cet État fédéral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Il y a un exemple que vous citez dans votre livre justement de cette différence entre l'image qu'on peut se faire des rapports entre Wallons et Flamands et la réalité sur le terrain. C'est quelque chose que vous avez vécu, c'est cette distribution de drapeaux belges sur une course cycliste. Si vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez vécu ce jour-là.
Mais en fait, c'était une de mes premières actions dans le cadre de la SBLB+, et donc j'étais parti avec... On était une dizaine, on était 3-4 francophones. J'étais le seul bruxellois, les autres étaient liégeois, et puis il y avait une dizaine d'anversois avec nous, et on allait autour des Flandres. Donc qui est quand même le symbole, disons, cycliste, et certainement nationaliste de tous les mouvements très flamingants, où on voit les lions des Flandres à la TV, enfin j'imagine que vous avez tous vu les images déjà, et donc c'est vraiment le rendez-vous incontournable de tous les nationalistes flamands pour mettre le lion des Flandres en grand devant les caméras. Donc nous on s'était dit, tiens, on va aller distribuer des petits drapeaux belges. Donc des vraiment des petits formats, on en avait je crois 5000 avec nous. Bon, on arrive là-bas sur place, c'était au mieux de Gramont, hein, qui est, pour ceux qui connaissent le cyclisme, c'est la dernière montée importante avant l'arrivée. Et on s'était mis là, et donc on avait envoyé nos collègues anversois, parce qu'on s'était dit, bon, en tant que francophone, on va pas venir provoquer non plus, c'est pas le but. Donc on a envoyé nos amis anversois, et qui se sont fait accueillir bras ouverts. Et donc là, moi, et je le dis sincèrement, enfin ça s'est vraiment passé comme ça, enfin j'ai pas de témoin, vraiment, c'est incroyable. Les gens en redemandaient. On a dû faire 3 fois le tour, et après 2 heures, on était sans drapeau parce que 5000, ça part quand même vite. Et tout ça pour dire que finalement, et en premier les francophones du groupe.
Et les gens voyaient que vous étiez francophone.
Oui, parce que nous après on a rejoint effectivement, et donc moi je me débrouille quand même assez correctement en irlandais, mais mes amis liégeois avec un fort accent liégeois, et finalement les gens leur répondaient en français, en disant ah, merci, et donc il y avait un super contact qui se faisait avec les gens. Bon, je dis pas qu'il y a eu trois, il n'y a pas eu des flamingants, il y a quelques flamingants qui ont crié, qui ont dit ah, Belge Barst, retournez chez vous, et tout ça, je dis pas qu'il y en a eu évidemment, mais je veux dire. Après, je me souviens d'une conversation dans la voiture de retour, on se disait, mais on n'aurait jamais imaginé ça une seconde, en tout cas, les francophones du groupe. Parce que les flamands du groupe nous disaient, mais enfin, évidemment, c'est normal. Mais nous, comme francophones, on allait la peur au ventre. Hein. On allait vraiment la peur au ventre là-bas. Enfin, et moi, vraiment, ça a été une expérience exactement du fossé entre la perception des choses et la réalité.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le citoyen peut faire justement pour essayer de combattre ce fossé, de rapprocher finalement les deux communautés? Là aussi, vous citez quelques exemples simples, parler la langue de l'autre, organiser un barbecue.
Oui, enfin, donc sur le barbecue, c'est aussi un... Parce qu'en fait, mon objectif dans le livre, c'est pas faire une thèse doctorale ou un cours de droit. Je pense qu'il y a assez de livres qui le font et puis je n'en aurais même pas les capacités. C'est vraiment essayer de, par des exemples simples, anecdotiques de la vie quotidienne, d'arriver à des solutions concrètes. Pour améliorer notre vivre ensemble. Et donc au début du livre, je donne quelques exemples, et il y en a un qui m'a frappé, c'était, donc je donne des exemples dans B+, mais donc en dehors aussi. Et donc là, c'était un article du Atlas des News du mois d'août dernier, et qui racontait qu'un Flamand avait organisé un énorme barbecue dans un village des Ardennes, donc province de Namur, donc en Wallonie. Et donc ça faisait la une, mais vraiment la une du Atlas News, qui est le journal le plus vendu en Flandre, mais donc en Belgique, qui a 1 million de lecteurs, plus ou moins. Et pourquoi? Parce qu'on était évidemment quand même encore un peu dans la crise communauté, et qu'on voyait ce monsieur, c'est monsieur Waterscott, parce que je le nomme dans le livre, parce que je trouve qu'il a une bouille sympathique. Et donc, ce monsieur qui allait depuis 40 ans de Ham, il venait de Ham, il passait 40 ans dans le même petit village ardennais en vacances, et il a dit, voilà, je veux remercier mes amis parce qu'ils m'accueillent bien depuis 40 ans. Il leur a offert plein de saucisses, des cervelas, des bières, des tonneaux de bière. Et donc, c'est ça qui a fait effectivement la une dans le Tlastenus. Mais ce qui était assez extraordinaire, et ça, à mon avis, ça ne peut se passer qu'en Belgique, c'est que donc, il y a même la VRT qui va l'interviewer, parce que après, j'ai suivi la nouvelle, et donc la VRT a été faire un sujet là-dessus. Et à la fin de son interview, donc il dit, voilà, c'est mes copains wallons, j'ai amené tout mon village de Ham aussi pour faire la fête avec eux, donc ils étaient 500. Et à la fin, il dit comme ça, et de toute façon, je l'ai aussi fait pour l'unité du pays. Et alors là, évidemment, le type de la vérité se rapproche, je lui demande un peu, tiens, moi ici, ça fait 40 ans que je viens, je parle évidemment français avec eux, et si tout le monde faisait ça, y compris autour de Bruxelles, il n'y aurait pas de problème dans ce pays. Et voilà, l'interview se termine. Et je trouvais ça extraordinaire, comme quoi ce monsieur qui a fait une initiative des plus sympathiques, grâce à un article dans Atlas News, a pris la VRT après avec, était quand même avec une couverture donc médiatique importante, et en partant d'une fête de barbecue, de saucisses, de bière, il a pu placer son message quand même politique de dire oui, je suis pour l'unité du pays, et si tout le monde faisait comme moi, apprendre la langue de l'autre, ça irait mieux. Et donc ça, je trouve que c'est un exemple citoyen quand même assez extraordinaire au niveau de l'impact.
Et sans présence des médias, qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose au jour le jour sans que la VRT ou la RTBF ne viennent couvrir les petites actions qu'on mènerait?
Moi, je pense qu'au jour le jour, il y a vraiment énormément de choses à faire. Moi, je prends un des exemples qu'on fait dans notre SBLB+, on fait des speed dating. Donc, on a repris le concept. Hein, donc, speed dating, c'est mettre des célibataires ensemble. Et pendant 7 minutes, et après, ils ont le droit de rencontrer une autre personne. Mais ici, c'est pas homme-femme, c'est wallon, enfin francophone-flamand. Et donc, on organise ça dans les universités, et on se rend compte que les gens sont hyper demandeurs. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, on était à Liège, et on avait invité une dizaine de néerlandophones, et on prenait des représentants des partis politiques. Et donc, les étudiants liégeois arrivaient, et bon, à chaque fois, c'était 7 minutes, donc ils avaient un jeune VLD, puis un jeune CDNV, un jeune Groen, etc. Et après, moi, j'ai des Liégeois qui sont venus chez moi, qui m'ont dit, mais enfin, c'est incroyable, j'ai jamais parlé de BHV qu'un Flamand, c'est la première fois. Et ben, c'est vrai, parce qu'il lisait le soir, il regardait la RTB, mais il avait jamais parlé qu'un Flamand de BHV, d'autant plus avec une bière entre deux, parce que comme c'était à l'UNIF, il y avait évidemment des bières qui circulaient. Ils ont aussi parlé du Standard, ils ont parlé d'Yves Le Thème, enfin, ils ont parlé de plein de choses. Mais ils avaient 7 minutes pour parler qu'un Flamand, et la plupart nous ont dit, c'est la première fois, c'est fou. Il y a un moment en rigolant qui a dit, eh ben, enfin, c'est hyper simple, on est d'accord sur tout, c'est ridicule, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Enfin, toutes les réactions sont hyper positives. Et c'est ça qui fait que je suis, de un, aussi optimiste, et de deux, où j'ai vraiment envie de dire, justement, aux citoyens,
il y a vraiment moyen de faire des choses. On peut vraiment par des petites actions se mettre. Je raconte aussi une action de dans la vie de tous les jours quand je parle ici des gens qui travaillent ensemble dans les entreprises, dans les grandes banques, dans les administrations fédérales. Il y a tous les jours des contacts qui donnent une image de l'autre communauté. Et moi, je rapporte une expérience que j'ai vécue dans mon travail où une de mes collègues le lendemain enfin, une fois par an, les Flamands retouchent un peu de l'impôt des personnes physiques parce que le budget flamand est en meilleure santé, enfin en tout cas était en meilleure santé parce que c'était il y a 2 ans que le budget francophone. Et donc ils touchent plus d'argent net que leurs collègues directs francophones. Et le lendemain de la paye, donc du fait que 2 collègues travaillent l'une à côté de l'autre, une à 200 net de plus que l'autre, eh bien ma collègue flamand le lendemain est venue avec un plateau plein de chachas et de princes. Bon, ça a l'air tout con comme ça, ce que je dis en livre, elle changera pas la face du monde. Mais je suis sûr que mes 25 collègues francophones qui étaient autour, eh ben, ils sont rentrés en soi, ça, j'aurais quand même pas cru d'une flamande, elle aurait fait ça, quel beau geste et tout. J'en suis certain. Et donc, c'est ça, quand je parle des petites choses au quotidien.
Et pour les grosses choses, les gros débats, les BHV, ce genre de questions-là, là, vous avez des propositions concrètes. Est-ce que le citoyen peut y adhérer, peut y travailler?
Alors sur les propositions concrètes pour résoudre effectivement nos conflits plus techniques ou plus compliqués, style BHV ou la nomination des bourgmestres ou des choses comme ça, c'est vrai que je suis pas sûr que le citoyen ait une emprise directe parce qu'effectivement c'est très technique, parce que c'est souvent ça vole un peu au-dessus de nos préoccupations quotidiennes. Mais ceci dit, et c'est là-dessus que j'incite dans le livre, il faut les résoudre. Et donc aussi le but de notre mouvement, c'est proposer des solutions, parce qu'il faut résoudre ces problèmes. Parce que si on ne les résout pas, notre niveau politique va se bloquer éternellement. BHV, pour prendre cet exemple-là, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que le problème est sur la table. On n'a toujours pas de solution. Alors à un moment, mettre au frigo, c'est bien. À un moment, il faut ouvrir le frigo et le vider, quoi. Donc ici vraiment, c'est vraiment ça ma détermination, c'est de résoudre ces problèmes. Et je suis vraiment convaincu du fait que je crois vraiment en nos concitoyens, que si on résout ces problèmes, et il y en a pas mille, hein. Il y a BHV, il y a effectivement accorder un peu la frontière linguistique, les bourgmestres, les circulaires, enfin, je donne des solutions. Et après, je crois vraiment que on va pas vivre dans non plus le monde des bisounours ou d'Alice au pays des merveilles. Mais je pense que, sincèrement, on sera avec une autre mentalité, plus fédérale et plus décomplexée, qui cadrera mieux, je pense, avec notre siècle, qui est le 21e maintenant.
Pour résoudre tout ça, vous parlez de la simplification de l'horlogerie institutionnelle. C'est un peu barbare. Mais ça passe entre autres par un changement du rôle du Sénat, selon vous, une refédéralisation de certaines compétences. Est-ce que c'est imaginable, quand on a du mal à régler BHV, d'imaginer, de dire au Sénat qu'il est là pour régler les problèmes de normes, d'avoir la norme fédérale au-dessus des normes communautaires et régionales, d'avoir une refédéralisation de certaines compétences? Est-ce que c'est finalement imaginable que nos hommes politiques acceptent cela aujourd'hui? C'est pas un peu utopiste?
Bon, je crois pas que ce soit utopiste. Ce que je ne crois pas non plus, c'est que les hommes, nos responsables politiques vont prendre telles quelles toutes les propositions que je donne, évidemment. Ceci dit, pour reprendre l'exemple, je pense que c'est un des meilleurs exemples, de refédéralisation de compétences. Donc clairement, ça veut dire quoi? Que ce qui a été régionalisé, on le remet au fédéral. Ça, je crois que c'est vraiment faisable. Parce que aujourd'hui, tout le monde s'accorde, à part vraiment les plus extrêmes et les plus nationalistes, de dire si on fait une réforme de l'État, il faut le faire pour des motifs de bonne gestion, des motifs d'efficacité, des motifs de subsidiarité. Donc mettre la compétence là où elle correspond le mieux aux besoins du citoyen. Eh bien, selon ce critère-là, oui, on peut régionaliser d'autres compétences, mais il faudra alors évidemment fédéraliser d'autres. Et je prends l'exemple du commerce extérieur parce que c'est là-dedans où je travaille au niveau professionnel. C'est une aberration de devoir aller en Chine, au Brésil, en Inde, avec un représentant wallon, un représentant bruxellois et un représentant flamand. Tout le monde y perd. Et donc là, je pense que clairement, dans le cadre d'un accord communautaire, hein, donc je ne parle pas comme mesure isolée, je crois clairement des refédéralisations de compétences où vraiment c'est évident, le commerce extérieur, les normes de bruit. C'est absurde ce qui s'est passé avec Xaventem avec les normes de bruit. On ne va pas rentrer dans le débat parce que c'est un peu technique, mais c'est vraiment ridicule. Ça, je pense, oui, qu'il peut y avoir un consensus là-dessus.
Alors, peut-être par rapport au livre, cette participation en B+, vous l'amenez depuis plusieurs années. C'est dans ce cadre-là que vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce que ça vous a apporté de, pour une fois, mettre vos idées sur papier, d'y réfléchir pendant plusieurs mois, j'imagine, pour arriver à écrire ce livre. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans justement cette participation à cette ASBL que vous voulez mener?
Ben, sincèrement, c'est de là où je tire, je pense, mon optimisme par rapport à la situation belge, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'avec un peu de bonne volonté, et sans exagérer, allez, avec beaucoup de bonne volonté, allez, ok, on pourrait vraiment, vraiment passer le cap. Et quand je dis passer le cap, c'est résoudre vraiment ces problèmes communautés qui nous embêtent, pour pas dire plus, depuis des décennies, et vraiment avoir une autre mentalité, une mentalité où on n'est pas là à défendre simplement son petit jardin, son petit pré carré. Je pense qu'aujourd'hui il y a des choses en Belgique qui se passent et qui sont et que dès qu'on va à l'étranger et qu'on part, que ce soit 3 semaines, 6 mois, 1 an, et qu'on revient en Belgique, parfois on se dit mais enfin quoi, on est occupé. Et je crois sincèrement, et c'est pour ça que, enfin, je termine par là dans le livre, que la génération qui a entre aujourd'hui 25 et 40 ans et qui arrive petit à petit au pouvoir, elle est beaucoup plus consciente de ça. Elle a plus envie de se prendre la tête ou de faire tomber des gouvernements en se demandant dans quelle langue on va envoyer un document, une convocation électorale dans la périphérie de Bruxelles. Elle a plutôt envie de savoir comment est-ce que les 20% de chômeurs de bruxellois vont trouver un boulot à Zaventem, à Louvain ou à Hal. Et je pense que c'est ça les vrais défis. Et donc, en rédigeant le livre, je me suis vraiment dit, mais c'est pas possible que le bon sens ne reprenne pas le dessus, quoi, à un moment donné. C'est pas possible que la prochaine génération politique ou même la prochaine génération de citoyens, ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui, qui voyagent plus que leurs parents, qui connaissent mieux l'Europe, qui parlent généralement aussi peut-être bien une langue en plus, restent dans cette espèce d'esprit parfois quand même fort de clocher. Et donc, en mettant tout ça sur papier, effectivement, je me dis, mais oui, il faut y arriver, d'où le titre d'ailleurs.
Qu'est-ce qui vous fait penser que cette nouvelle génération politique, justement, arriverait à dépasser ces débats communautaires? D'abord, à qui vous pensez particulièrement aujourd'hui sur la scène politique? Et qu'est-ce qui vous rend si optimiste de vous dire que là, il y a peut-être une opportunité pour que cette nouvelle génération politique arrive à dépasser ces problèmes communautaires?
Bon, bah d'abord, je dis toujours, je ne suis de nouveau pas dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles ou la quatrième dimension. Donc, je suis réaliste que même les gens que je vais citer ne vont pas tout d'un coup, par un coup de baguette magique, résoudre nos problèmes communautaires ou s'embrasser en sortant du palais d'Egmont. Mais, ceci dit, je crois sincèrement que des gens comme, et j'en cite de tous les partis, donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui aurait 35 ans ou 40 ans serait meilleur qu'un plus âgé? C'est pas ça la question. Ce que je prends comme idée de départ, c'est de dire que les gens aujourd'hui, ben, comme vous et moi, on n'a pas connu la Belgique unitaire déjà. On n'a pas connu le Wallenbeuten. On n'a pas connu les grands événements dramatiques, parce que là, il y a vraiment eu du sang, même s'il y a eu peu de morts, il y a vraiment eu du sang, que ce soit les fourrons également aussi du côté wallon. On n'a pas connu ça. On l'a pas vu à la TV, on n'a pas nos parents qui nous en ont... Peut-être nos parents qui nous en ont parlé, mais... Je pense qu'on est moins marqué, qu'on saura donc plus facilement faire un compromis sur des choses qu'on a moins ressenties ou moins mal vécues. Et je prends toujours l'exemple de Jan Peunemans, qui est le président du Parlement flamand, donc NVA, donc nationaliste flamand, et il ne vient jamais à tout ce qui est convocation au Palais Royal. Donc le 21 juillet, il était resté à la maison, et on l'avait demandé, alors qu'il était invité, évidemment, on l'a demandé, pourquoi vous faites ça, alors que, même si vous êtes séparatiste, qui est votre droit, en tant que président du Parlement flamand, mais il faut venir parce que vous devez respecter votre fonction. Et là, il dit non, je pourrais jamais venir parce que quand j'étais gamin, je venais à Bruxelles avec mon père et je faisais les marches sur Bruxelles. Donc, c'était fameuse marche, il y avait 200 000 flamingants qui déboulaient sur Bruxelles. Et il disait, voilà, mon père me disait jamais, jamais ne rien concéder. Et voilà. Donc, Jan Peunemans, il a presque 70 ans. Hein, donc, je crois qu'il a 63, 64 ans. Et donc, lui, voilà, il a toujours ça en tête. Il se rappelle quand son père lui tenait la main quand il avait 8 ans et qu'il lui disait jamais ne rien céder aux francophones. On marche sur Bruxelles. Et je pense que toute cette génération politique que je cite dans le livre, que ce soit Alexander De Croo, le nouveau patron du VLD, que ce soit Caroline Jeunet, la présidente du SPA, que ce soit du côté francophone Charles Michel ou Melchior Wattley, je crois que ces gens-là sont beaucoup plus respectueux par rapport à l'autre communauté. Déjà, souvent, ils parlent la langue de l'autre. Ce qui, du côté francophone, n'a pas toujours été évident dans l'histoire du pays. Et je crois sincèrement qu'on les a jamais entendus faire de grands attaques contre l'autre communauté, sortir des grands mots ou des grandes insultes même parfois ou des provocations. Et je crois que c'est ça qui me fait dire ces gens-là seront plus à même de faire un compromis, un vrai compromis, qui abandonnerait toutes ces finalement ces vieux problèmes, ces vieux cadavres dans le placard qu'on hérite des années 50-60.